Vous êtes bien à l'écoute de RFI Radio France Internationale, 4 heures en temps universel, 6 heures ici à Paris. Trouvez Gaëtan Plenet pour le journal. Bonjour Gaëtan.
Bonjour Edouard, bonjour à tous.
Des attaques contre les États-Unis et Israël et des critiques contre le protectionnisme. Bilan de la première journée du sommet des BRICS.
C'était hier à Rio de Janeiro. Au Brésil, on y est, on fait le point dès le début de ce journal. Benjamin Netanyahou attendu à la Maison Blanche. Le Premier ministre israélien et le président américain doivent parler de la proposition de trêve à Gaza. Les négociations indirectes avec le Hamas ont repris hier au Qatar et Donald Trump est confiant. On vous emmène aussi à Tamra dans le nord d'Israël à la rencontre d'habitants en colère après la guerre avec l'Iran. Il dénonce le manque d'abris anti-aériens pour échapper aux frappes. On sera ensuite à Madrid où doit s'ouvrir tout à l'heure un sommet censé définir les enjeux du partenariat 2025-2028 Espagne-Afrique. Et puis on vous parlera de cette étude qui alerte sur les conséquences nombreuses de l'extraction minière en haute mer pour la biodiversité. Tout pays s'alignant sur les politiques anti-américaines des BRICS se verra appliquer un droit de douane supplémentaire de 10%, prévient Donald Trump. Le président américain agite à nouveau la menace commerciale alors que son pays compte appliquer à partir du 1er août ses surtaxes douanières qui avaient été annoncées, on s'en souvient, début avril avant d'être suspendues pour laisser la place à la négociation. Jusqu'à 50% de plus pour certains pays et même 60% donc après cette nouvelle menace américaine. En plein sommet des BRICS à Rio, au Brésil, les 10 pays membres qui refusent l'hégémonie occidentale ont justement évoqué hier au cours de cette première journée ces droits de douane, mais pas seulement. Il a à nouveau été largement question aussi des différents conflits dans le monde. On résume cette première journée depuis Rio avec notre correspondant Martin Bernard.
Les BRICS ont condamné les attaques menées contre l'Iran qui est récemment devenu membre du groupe des pays émergents. Ils ont également demandé qu'Israël retire ses troupes de la bande de Gaza. Tout en souhaitant l'instauration de la paix en Ukraine, la déclaration finale condamne la mort de civils dans plusieurs localités russes, sans mentionner toutefois les victimes de l'autre côté de la frontière. L'absence des présidents chinois et russes n'a guère entamé l'enthousiasme du président Lula, qui affirmait que les BRICS constituaient l'héritier du mouvement des non-alignés. Le protectionnisme des pays riches a également été condamné en des termes très forts. Il y a tout d'abord les droits de douane imposés par les États-Unis. Les BRICS ont exprimé leurs sérieuses préoccupations envers l'augmentation des mesures unilatérales qui faussent le commerce mondial et affaiblissent les pays pauvres. Mais l'Union européenne a également été critiquée en filigrane pour une forme de protectionnisme déguisé par des motifs environnementaux. Martin Bernard, Rio, RFI.
Et les pays des BRICS, Martin Bernard l'évoquait, réclament donc un retrait israélien de la bande de Gaza ainsi qu'un cessez-le-feu dans l'enclave. Sur ce dernier point, il y a de bonnes chances d'y parvenir cette semaine, selon le président américain Donald Trump. Il doit recevoir aujourd'hui à Washington le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Les négociations directes entre Israël et le Hamas ont, elles, commencé hier soir à Doha au Qatar. La proposition discutée prévoit une trêve de 60 jours ainsi que des échanges entre otages israéliens toujours détenus à Gaza et prisonniers palestiniens enfermés eux dans les geôles israéliennes. C'est une proposition américaine et Donald Trump et Benjamin Netanyahou devraient donc en parler tout à l'heure à la Maison Blanche. Mais plus largement, depuis son retour au pouvoir, le président américain espère engager surtout une normalisation des relations entre son allié israélien et les États arabes à travers les accords d'Abraham. Sauf que la position très extrême du premier ministre israélien depuis 2 ans ne lui facilite pas la tâche. C'est ce que nous dit David Rigoulet-Rose, chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique et rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique.
Avant l'arrivée de Benjamin Netanyahou, c'est le ministre de la Défense saoudien qui est en déplacement discret, mais c'est un déplacement majeur à Washington, parce qu'on sait qu'il y a une relation étroite entre Donald Trump et le prince héritier Mohammed bin Salman, et on retrouve évidemment les enjeux régionaux. Il y a la question palestinienne, la question sous-jacente d'une normalisation dont rêve évidemment Donald Trump, et aussi Benjamin Netanyahou, mais pas aux mêmes conditions. Puisque après le 7 octobre, effectivement, l'Arabie Saoudite a manifesté le fait qu'une normalisation telle qu'elle était envisagée avant le 7 octobre et la guerre qui a suivi ne peut pas être envisagée de la même manière aujourd'hui. Je dirais que là, il y a une proximité aussi importante avec Benjamin Netanyahou qu'avec le prince héritier Mohammed bin Salman.
Des propos recueillis par Sébastien Farsi. Et l'armée israélienne annonce avoir frappé tôt ce matin plusieurs infrastructures des rebelles houthis au Yémen, notamment le port d'Odeida. Des cibles, dit-elle, utilisées par les houthis pour transférer des armes provenant du régime iranien qui serviraient ensuite à mener, je cite, des opérations terroristes contre Israël et ses alliés. Quelques heures après ces frappes, l'armée israélienne dit, elle, avoir détecté deux missiles tirés depuis le Yémen en direction de l'État hébreu. On ignore s'ils ont ou non été interceptés, mais les sirènes d'alerte aérienne ont en tout cas résonné dans plusieurs villes israéliennes. Ce fut le cas déjà lors de la guerre avec l'Iran qui s'est terminée il y a deux semaines maintenant. 935 morts côté iranien, 28 côté israélien. Et en Israël, cette guerre, elle a coûté cher, plusieurs milliards de dollars. La faute à ces efforts militaires qu'il a fallu déployer pour intercepter les missiles. La faute aussi aux dégâts des bâtiments détruits qu'il va falloir reconstruire. Et dans les villes arabes israéliennes, les habitants appellent à un sursaut des autorités nationales car ces villes manquent cruellement d'abris anti-aériens et n'ont généralement pas les moyens d'en faire construire. C'est une injustice pour les résidents que nos envoyés spéciales Justine Fontaine et Mélissa Barra sont allés rencontrer à Tamra, dans le nord d'Israël. Reportage.
Un missile iranien est tombé pendant la guerre sur cette grande maison cossue, aujourd'hui éventrée. Il ne reste presque plus rien du premier et du deuxième étage. Trois femmes et une adolescente sont mortes ici le 14 juin. Amoudi, le voisin d'en face, était sur le perron de sa maison.
J'étais assis dehors, je l'ai vu tomber. Et le souffle de l'explosion m'a projeté par là, dans ma maison.
Sa femme a été blessée, lui s'en est sorti avec quelques égratignures. Comme ses voisines décédées dans le bombardement, il a un abri privé chez lui, mais n'y était pas quand l'explosion a eu lieu. Et dans cette ville de 37 000 habitants, le logement de Hamoudi fait plutôt figure d'exception. Mohamed Choko Abou El Hija est responsable des réponses d'urgence à Tamra. Lui-même se cache sous une table quand sonnent les alertes anti-aériennes.
Il n'y a aucun abri public ici, sauf dans quelques écoles, alors que dans le reste d'Israël, toutes les villes en ont. Mais je crois qu'il n'y en a dans aucune ville arabe. La plupart ici n'ont pas d'abri privé non plus. Les familles n'ont pas assez d'argent pour manger et l'État voudrait qu'elles construisent des abris.
La mairie et l'État se renvoient la balle. Après la guerre, le gouvernement israélien a promis l'équivalent de 15 millions de dollars à l'échelle du pays pour construire de nouveaux abris publics. Mais aucun projet n'a pour le moment été acté pour Tamra. Justine Fontaine, Mélissa Barra, Tamra, RFI.
Un reportage à retrouver sur notre site RFI.fr et sur notre application Pure Radio. Au moins 80 morts, c'est le dernier bilan des inondations qui ont frappé le Texas. 28 enfants parmi les victimes selon les autorités locales de cet état du sud des États-Unis. Une dizaine d'autres enfants sont encore portés disparus, alors que plusieurs centaines de jeunes filles qui participaient à un camp d'été chrétien ont été surprises par la montée soudaine et violente des eaux du fleuve Guadalupe. C'est une catastrophe comme l'on n'en a pas vu en 100 ans, affirme Donald Trump qui annonce qu'il se rendra probablement au Texas vendredi. Donald Trump qui a réagi hier soir à l'annonce par Elon Musk de la création du Parti de l'Amérique. On vous en parlait hier, le patron de Tesla et de SpaceX avait menacé de le faire si le projet de loi budgétaire du président était adopté. Ce fut le cas il y a quelques jours, alors il lance ce nouveau parti. Ridicule, dit Donald Trump, qui a surtout voulu rassurer hier soir ses supporters, inquiets que le Parti républicain n'en sorte affaibli aux prochaines élections de mid-term de l'an prochain. Mais visiblement, Donald Trump, lui, n'est pas forcément inquiet. Écoutez-le, il s'exprimait face à la presse juste avant de monter à bord de l'Air Force One.
Je trouve ridicule de créer un troisième parti. Nous avons un énorme succès avec le Parti républicain. Les démocrates sont un peu perdus en ce moment, mais le système a toujours été bipartite. Et je pense que créer un troisième parti ne fait qu'ajouter à la confusion. Notre système a vraiment été développé pour deux partis. Les troisièmes partis n'ont jamais fonctionné. Il peut donc s'amuser, mais je trouve ça ridicule.
Le président américain Donald Trump. Il faut une mobilisation nationale lucide et résolue pour faire face à l'épidémie de choléra qui frappe la République démocratique du Congo. C'est ce qu'a réclamé le président Félix Tshisekedi vendredi lors d'une réunion du Conseil des ministres. Le compte-rendu nous en est parvenu hier. Le chef de l'État reconnaît une situation alarmante et parle des capacités hospitalières et funéraires sous forte tension. Plus de 700 décès déjà enregistrés dans le pays depuis janvier, une trentaine à Kinshasa. Il est 6h09 à Madrid, la capitale espagnole, où s'ouvre ce lundi le 3e Africa Spain Cooperation Summit. À près de 500 représentants et dirigeants de l'administration publique et privée de 30 pays d'Afrique font le déplacement. Alors ça va durer deux jours, au programme des sessions de travail avec des entrepreneurs et experts espagnols pour définir les enjeux du partenariat 2025-2028 Espagne-Afrique. Une façon pour l'Espagne, Diane Cambon, de poursuivre son offensive diplomatique en Afrique.
Pas moins de 5 tables table ronde pour la première journée avec quelques 70 conférenciers africains et espagnols. Ce premier sommet entend sceller des liens durables entre l'Afrique et l'Espagne, dont la présence économique et politique reste encore modeste sur le continent africain. Actuellement, l'Afrique représente 6% des exportations espagnoles et 7% de ses importations. Madrid, qui revendique sa proximité géographique avec le continent africain, aspire donc à jouer un rôle de leader dans des secteurs clés tels que les infrastructures, les énergies renouvelables et la pêche. L'Espagne, qui a développé un nouveau réseau de chambres de commerce en Afrique, aspire aussi à être davantage présente sur place pour collaborer notamment dans la lutte contre l'immigration illégale via des projets de formation professionnelle pour les jeunes. Une question qui sera largement abordée lors du sommet. Diane Cambon, Madrid, RFI.
Quelles règles pour encadrer l'extraction minière en haute mer ? Question qui divise depuis longtemps l'autorité internationale des fonds marins s'y a-t-elle à nouveau à partir d'aujourd'hui, dans un contexte évidemment particulier, alors que Donald Trump et la société canadienne The Metals Company veulent lancer cette industrie contestée sans l'aval du reste du monde. Mais il y a 3 jours, une étude menée par un consortium scientifique dirigé lui-même par l'Agence scientifique nationale australienne a révélé que l'exploitation minière en haute mer pourrait impacter, avoir des conséquences sur la vie marine. Et Igor Strauss, pas de taille pour les victimes, ça concerne les plus petits organismes comme les grands prédateurs.
Ironie de l'histoire, cette étude a été commandée par la société canadienne TMC, The Metals Company, qui a déboursé environ 1 million de dollars pour que l'organisme australien pour la recherche scientifique, le CIRO, examine les données récoltées dans l'océan Pacifique. C'est là, entre le Mexique et Hawaï, dans la zone de fracture de Clipperton, à plus de 5 km de profondeur, que TMC veut exploiter les nodules polymétalliques, sortes de galets plus ou moins riches en manganèse, cobalt, cuivre ou encore nickel. Mais aspirer ces nodules à de telle profondeur n'est pas sans risque. Ainsi, selon l'étude scientifique, des espèces telles que les concombres de mer, les vers marins, les étoiles de mer et les crustacés pourraient connaître des déclins significatifs en raison de ces pratiques. Quant aux poissons prédateurs, comme les spadons ou les grands requins, ils pourraient voir des métaux toxiques s'accumuler dans leur organisme après une exposition prolongée au panache de sédiments rejetés par l'excavation. Reste à savoir si les résultats de cette étude seront pris en compte lors du round de négociations qui débute aujourd'hui.
Explication signée Igor Strauss. Et puis près de 180 km plus tôt au programme de Tour de France ce lundi. C'est du cyclisme, 3e étape dans le nord du pays, entre Valenciennes et Dunkerque. Et c'est le Néerlandais Mathieu Van Der Poel qui partira avec le maillot jaune. C'est l'un des grandissimes favoris de cette édition, avec Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard qui le suivent d'ailleurs pour l'instant au classement. Il est 6h12 à Paris.
Gaëtan Plenet.
4h12 en temps universel, le retour de l'actualité africaine dans une petite vingtaine de minutes. D'ici là, on va parler de rugby, bien plus qu'un sport en Australie, un outil de diplomatie pour contrer l'influence chinoise dans le Pacifique. On est à Sydney dans un instant. On sera aussi à Avignon, dans le sud de la France, pour parler avec le directeur du festival de théâtre qui vient de commencer. Un festival toujours aussi engagé, vous l'entendrez. Et puis on parlera aussi des maux des jeunes enfants. Quand faut-il consulter ? Ce sera notre conseil santé du jour. Mais d'abord, direction le Danemark, un pays en plein réarmement qui déploie des drones de surface pour renforcer la sécurité maritime autour de l'Europe du Nord. Des drones voiliers autonomes qui surveillent les fonds marins et le trafic maritime en mer Baltique, point chaud, on le sait, de géopolitique européenne. Notre correspondante Ottilia Ferré était à Køge le mois dernier, à 40 km de Copenhague, là où deux de ces drones ont pris la mer. Reportage.
Ils captent tout et ils voient tout, que ce soit au-dessus ou en dessous de la surface. Ces 4 sail drones voyageurs, comme ils s'appellent, sont actuellement testés par la marine danoise qui a bon espoir de les ajouter définitivement à son arsenal de défense. Et pour le lieutenant général Kim Jorgensen, le temps presse.
Nous devons déterminer comment les navires sans équipage peuvent s'intégrer dans nos eaux très fréquentées. Nous devons augmenter nos connaissances du domaine maritime et il faut faire vite en raison de la situation sécuritaire actuelle.
La mer Baltique, dont les détroits danois sont la porte d'entrée, concentre en effet plus de 8% du trafic maritime mondial et l'homme y est, à l'heure actuelle, peu présent. Ces drones voiliers peuvent donc permettre de collecter données et renseignements précieux. Ils peuvent par exemple donner l'alerte rapidement en cas de potentiel sabotage de câbles sous-marins ou de menaces venues de l'Est.
Et la flotte fantôme russe est évidemment l'un des éléments qui nous intéresse.
Ces engins de 10 mètres de long et remplis d'outils technologiques sont alimentés par l'énergie éolienne et solaire. Richard Jenkins, PDG de Saildrone, l'entreprise américaine qui fabrique ces voyageurs, explique que c'est la première fois que ce genre de navire est utilisé en Europe. Europe.
C'est vraiment le début de nos opérations en Europe et on s'est ancré au Danemark. Deux drones sont déployés aujourd'hui, mais il y en a quatre en tout. Ils sont équipés avec des caméras, des radars, des caméras de vision infrarouge, des outils acoustiques et des sonars. Ils sont vraiment nos yeux et nos oreilles à la surface et sous la mer.
Les innombrables capteurs intégrés à ces drones voiliers sont capables d'observer ce qu'il se passe jusqu'à 300 mètres de profondeur. Des agents se relaient à Londres, en Australie et en Californie pour collecter 24 heures sur 24, toutes les informations récoltées par ces appareils sans pilote.
Tout est collecté en temps réel. Les données sont reçues en quelques secondes. Avec ces drones, on espère voir tout ce qui se passe en mer Baltique. Sous l'eau, il y a de nombreuses traces de sous-marins. Il y a une grande inquiétude que la Russie, entre autres, place des appareils près des infrastructures sous-marines, sous les câbles de communication ou près des parcs éoliens dont on se sert de sonars sur les drones pour cartographier le fond des mers et même en dessous des fonds. Ça permet de voir si quelque chose a été placé là, si quelque chose a été endommagé ou quoi que ce soit de suspect.
Ces véhicules peuvent aussi naviguer en toute autonomie pendant 3 mois à la vitesse de 5 nœuds. Richard Jenkins confie aussi que plusieurs autres pays nordiques seraient prêts à se doter de ces drones sans pilote pour aller patrouiller en mer Baltique, devenu un haut lieu de tension avec le voisin russe. Otilia Ferré, Kogue, RFI.
Un reportage à retrouver en intégralité sur le site de RFI, rfi.fr, rubrique podcast. Accent d'Europe. La diplomatie du rugby, c'est la nouvelle méthode australienne pour faire face à l'influence grandissante de la Chine dans le Pacifique. Bonjour Grégory Pless.
Bonjour Gaëtan, bonjour à tous.
Correspondant de RFI à Sydney, le rugby, on le sait Grégory, c'est un sport extrêmement populaire en Australie et plus largement dans les nations insulaires de la région. Cette diplomatie qui porte donc son nom, elle a pris forme l'année dernière avec la signature d'un accord d'un montant de plus de 330 millions d'euros. Accord entre la Ligue nationale de rugby et le gouvernement australien qui porte notamment sur la création et l'intégration d'une nouvelle équipe au championnat australien de rugby league. Le rugby à 13 donc, une équipe qui serait basée à Port Moresby, la capitale de la Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Et oui, absolument. Cette équipe papoue, elle doit rejoindre le championnat australien à partir de 2028. Et ces 330 millions d'euros, en fait, près de la moitié, 160 millions, vont être alloués spécifiquement pour développer cette nouvelle équipe. Mais il y a aussi 140 millions qui vont être dédiés à la création d'un partenariat avec la Ligue de rugby du Pacifique, au sein de laquelle évoluent les équipes des Fidji, des Tonga et de Samoa. L'idée étant de développer dans ces pays la pratique du rugby à 13, qui contrairement à l'Australie et à la Papouasie, est moins populaire que le rugby à 15, mais aussi de créer des passerelles pour permettre aux meilleurs joueurs de ces pays de pouvoir rejoindre plus facilement le championnat australien. Sauf qu'on n'en reste pas là, puisque cet accord il a un versant politique très important. Il prévoit en effet que si la Papouasie-Nouvelle-Guinée venait à signer un accord sécuritaire avec la Chine, une proposition faite à ce pays comme la plupart des autres dans la région ces dernières années, eh bien l'Australie retirerait son soutien financier et la Ligue, elle, s'affranchise à cette nouvelle équipe papoue.
Alors pour résumer, cet accord vise avant tout à contrer l'entrisme de la Chine dans la région, où elle a déjà obtenu d'ailleurs en 2022 la signature d'un accord sécuritaire avec les îles Salomon. Mais Pékin, Grégory, face à cette diplomatie du rugby, a décidé de répondre également sur le terrain sportif.
Oui. Comme d'ailleurs la Chine le fait ailleurs dans le monde, elle investit beaucoup dans les infrastructures de ces pays à travers par exemple la construction de stades. Elle a ainsi livré en mars dernier un complexe sportif aux îles Tonga qu'elle a entièrement financé pour un peu plus de 30 millions d'euros et signé tout récemment un protocole d'accord avec la Fédération fidjienne de rugby pour notamment développer les futurs talents. Enfin, la semaine dernière, on a appris dans la presse que des dirigeants des fédérations de Samoa et des Tonga étaient en négociation avec les autorités chinoises pour que ces dernières investissent dans leur sport, celui dans lequel ces tout petits pays arrivent à se distinguer au plus haut niveau international, le rugby à 15.
Oui, c'est justement ce qui différencie, ce qui crée la crispation entre l'Australie et ces pays. Ils sont tous passionnés, c'est vrai, par le ballon ovale, mais en Australie, c'est le rugby à 13 qui est très populaire, tandis que dans ces nations insulaires, c'est plutôt le rugby à 15.
Oui, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle cet investissement australien, paradoxalement, n'est pas très bien vu dans ces pays. Ils craignent en fait qu'avec le déversement de tout cet argent, il va y avoir une fuite de leurs meilleurs talents vers le championnat australien et donc vers le rugby à 13, et qu'en conséquence, cela va affaiblir leurs équipes de rugby à 15. C'est pourquoi les Fidji, Tonga et Samoa ont décidé d'unir leurs forces pour demander conjointement à Canberra une aide financière d'un peu plus de 80 millions d'euros qui serait, elle, destinée à financer le rugby à 15 dans leurs pays respectifs. Preuve s'il en est même que même pour les plus fanatiques du ballon ovale, tout reste d'abord et avant tout une affaire de rond.
Et voilà, un essai transformé par Grégory Pless, correspondant de RFI à Sydney. Il est 4h20 en temps universel. Le 79e Festival d'Avignon a commencé ce week-end dans le sud de la France. C'est la plus grande manifestation de spectacle vivant au monde, avec cette année la langue arabe à l'honneur de cet événement toujours aussi engagé. Une centaine d'artistes du festival viennent d'ailleurs de signer une tribune publiée dans l'hebdomadaire Télérama pour dénoncer les massacres orchestrés par l'État israélien à Gaza et dans les territoires occupés. Avant même cette tribune et avant même d'ailleurs de rendre publique la programmation de cette année, le dramaturge portugais et actuel directeur du Festival d'Avignon, Thiago Rodrigues, avait déjà publié son soutien au peuple palestinien. Il est notre invité culture ce matin, interrogé par Muriel Mahalouf.
Bonjour Thiago Rodrigues.
Bonjour.
Le 79e Festival d'Avignon s'est ouvert ce week-end et vous écrivez en amont de la programmation sur le site. Le festival commence alors qu'un massacre se poursuit à Gaza. Avignon, le théâtre, c'est le lieu de l'alerte.
C'est le lieu de l'alerte, c'est le lieu de la liberté de parole, c'est le lieu de l'implication des artistes avec le monde. C'est une responsabilité historique depuis 1947 avec la fondation du festival par Jean Villard qui défendait lui aussi un artiste impliqué, engagé dans la société, et c'est le code génétique du festival. Le théâtre nous propose le beau, la joie, la poésie, tout en restant lucide face au monde et capable de parler des troubles et des bruits et des injustices du monde avec la beauté de la création artistique.
Avignon, c'est 1700 spectacles dans le off, une quarantaine dans le in. C'est aussi beaucoup de débats, des projections de cinéma. Et vous consacrez une soirée autour de Gisèle Pellicot. Quelle forme elle va avoir ?
Milo Rao, qui dirige cette soirée, va diriger une cinquantaine de comédiennes et comédiens, mais aussi de personnalités publiques qui participent à la lecture publique d'une reconstitution du procès de Gisèle Pellicot qui sera lu au Cloître des Carmes le 18 juillet le soir, mais aussi transmis sur le site du festival gratuitement à tout le monde qui veut le voir. Gisèle Pellicot a décidé de transformer d'une certaine façon le tribunal en théâtre pour rendre publique son histoire avec courage, en exigeant que la honte change de camp. Nous imitons, et Gisèle Pellicot, nous soutenons sa démarche pour que la honte change de camp.
Après l'espagnol et l'anglais, c'est l'arabe qui est à l'honneur cette année et c'est la deuxième langue la plus parlée en France. Comment s'est fait le choix de faire entendre cette langue multiple finalement, puisqu'il y a beaucoup de pays locuteurs de cette langue ?
La langue arabe, elle existe, elle est parlée par des gens de toute conviction, toute confession, dans plusieurs territoires au monde, et cette diversité, elle doit être rappelée au public, elle doit être pratiquée aussi dans un festival comme à Avignon. Après, nous avons beaucoup de paroles, même si on a une majorité de spectacles dedans, mais parce qu'on est tombé amoureux d'une majorité de spectacles de danse et on a vu que dans ces spectacles, parce que la danse n'est pas muette, on a vu comment il y avait aussi une certaine liberté dans le rapport à la langue et entre la langue et le corps. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudrait que cette langue soit au Festival d'Avignon pour qu'on puisse le plonger en profondeur au lieu de rester dans nos préjugés qui parfois existent de façon exagérée, malheureusement, envers la langue arabe.
Et vous mettez en scène cette année une création intitulée « La distance » où les terriens vont se réfugier sur Mars. C'est une dystopie ?
Toutes les évidences scientifiques que nous avons aujourd'hui nous disent que peut-être c'est plutôt documentaire de dire que la Terre sera un terrible lieu pour vivre en 2077. J'espère avoir tort. J'essaie pas que ça soit une prophétie, mais ça sert à sonner les cloches.
Merci Thiago Rodrigues.
Merci beaucoup.
Le directeur du Festival d'Avignon, interrogé par notre envoyé spécial Muriel Mahalouf avec Nicolas Benita à la réalisation.
Le Conseil Santé avec Suno Assurance.
Et ce matin, on parle des mots MAUX de la petite enfance, pas forcément les plus faciles à comprendre vu le manque de communication verbale. Caroline Paré en parle avec son invité.
Professeur Idrissa Dambaba, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes pédiatre chef du service de pneumologie pédiatrique du Centre hospitalier national d'enfants Albert Royer de Dakar au Sénégal. Si un bébé a moins de 6 mois et il a de la fièvre, quand est-ce qu'il faut consulter ?
Le premier conseil, c'est surtout prendre la température, s'assurer que la température soit supérieure à 38 degrés. Et la deuxième chose aussi, s'assurer que l'enfant, le bébé n'a pas de signes de danger ou de gravité, c'est-à-dire qu'il respire bien, que le bébé s'alimente bien, qu'il est bien coloré, qu'il réagit, qu'il est dynamique. Donc en général, ça, c'est les éléments sur lesquels on se base, mais aussi que le bébé a un bon contact. Maintenant, en général, quand il n'y a pas ces signes, en général, c'est une origine virale. Maintenant, par contre, si la fièvre elle est là, elle persiste, l'enfant pleure beaucoup, est très excité, ne dort pas, devient un peu hypodynamique et n'a pas beaucoup d'énergie. Donc, dans ces situations, il faut aller consulter, voir un spécialiste.
Ça veut dire aller au centre de santé le plus proche ?
Aller à la structure sanitaire la plus proche, dispensaire, poste de santé, voir un professionnel de la santé qui va voir la conduite à tenir.
Merci professeur Idrissa Dambaba. Aujourd'hui dans Priorité Santé, on va parler des addictions et des substances, du pouvoir addictif et des spécificités en fonction des différentes drogues. Au-delà des risques pour la santé, comment la dépendance s'installe-t-elle ? Pour quels produits existe-t-il des substituts dans le cadre d'un programme de sevrage ? Et certaines personnes sont-elles davantage vulnérables à la dépendance aux drogues ? C'est à retrouver à 9h10 et 1h10, temps universel, à toute heure en podcast sur l'appli RFI Pure Radio.
Le rendez-vous est pris à tout à l'heure. Caroline Paré, le retour de l'actualité africaine dans 4 minutes, un petit peu moins même, mais d'abord un petit peu de musique. C'est dans notre playlist du mois sur RFI, le musicien, chanteur et producteur helvético-marocain Sami Galbi, un artiste qui sait lier les sonorités raï et le shaabi avec des sonorités électroniques pour un univers musical hybride et dansant. Ce morceau en est la parfaite illustration. Voici Transit, Sami Galbi sur RFI.
ماشي براني ولد عردي لي كيشك وباغي يسمعني جاي قدامي يا انا صاحبك الرومي اللي مشى ورجع تاني اللي قالو زعما قري شوف خزاري ما نختارش بين باب ولا مامون سمن ولا كرواسون حوا ولا ادون انا شوف سي سون ديما ندير سامبلون يمكن افيك لو طون غير وليت مافيون خلي نص نص صوب مول فار زايد في ما لقات السكر نعيت من صفر هاد العالم عام كان فاسيل احسك فراجيل وخا تكون ابيل براني ولد الترانزيت جيت ورجعت من وسيلتي مشيت واي قبل تحكي مني سمعتش قالوا ناسي سي سيري لزوم مونتي سمعنا بزاف حكايات خير انتقل موجات من اول ذكريات وشحال من لغات خلي راسك تفوت علاش تقول شوازي انا ما عندي مواتي اصلي من لونجي ما عندي من فيكسي انا اصلي الميكسي ما بغيت حاجه البينه صبع الف في المية شحال كبروا بحالي بالترانزيت عايشوا بحالي نفس الكيت دابا فهمتي السبيريت واي
Transit, Sami Galbi, c'est dans notre playlist du mois à retrouver sur RFI Musique. Dans une minute, le journal Afrique en français, sauf si vous nous écoutez en Swahili en Afrique de l'Est. Là, vous avez rendez-vous avec 30 minutes d'information en Swahili. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de la Radio du Monde.
Tout à l'heure sur RFI, de vive voix. Pascal Paradou.
Henriette Walter a une passion pour les mots, leur étymologie, leur prononciation et la façon dont ils circulent d'une langue à l'autre. Dans l'étonnante histoire du nom des mammifères, elle se met en chasse de quelques 300 animaux et de leurs secrets, car quand on dit « lycée », se cache un loup.
Écoutez De Vive Voix avec Pascal Paradou, du lundi au jeudi à 13h30 TU sur RFI. Ce lundi sur RFI.
Accent d'Europe vous propose de partager la vie des Européens.
Frédéric Lebel.
Surveiller le trafic en mer Baltique, mais aussi les fonds sous-marins contre toutes les tentatives de sabotage en provenance de la Russie, c'est la mission des nouveaux drones voiliers au Danemark. Ils fonctionnent à l'énergie solaire et éolienne.
Accent d'Europe, du lundi au jeudi à 17h10 TU sur RFI.